conversation avec Hanan Arat. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le sens de la fuite, c'est le titre de son deuxième roman publié en février chez Gallimard. Hajar Azel, notre invitée aujourd'hui, y raconte la quête d'une jeune journaliste, Alice, une double quête en réalité. Alice veut être au cœur des événements qui secouent en 2011 le Proche-Orient, événements qu'on a appelés les printemps arabes, et elle veut aussi retrouver les traces d'un père né en Algérie, mort trop tôt et qui, lui aussi, voulait écrire. Une thématique qui semble éloignée du sujet de son premier roman, L'envers de l'été, sorti en 2021, qui était le récit d'une saga familiale qui révélait des secrets, mais au fond, les deux livres soulèvent les mêmes interrogations sur l'identité, le voyage, la famille. On en parle donc aujourd'hui avec Hajar Azel. Bonjour Hajar.
Bonjour, ravie.
Comment allez-vous?
Très bien, Doula, tout va bien.
Eh ben, je suis très heureuse d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Je le disais, votre actualité, c'est votre deuxième roman, Le sens de la fuite, qui est sorti en février dernier, donc chez Gallimard. Il y a une héroïne au cœur de ce roman, c'est Alice. Alors, qui est Alice et surtout, quelle part de Hajar y a-t-il dans Alice ?
Bah, vraiment ravie aussi d'avoir cette conversation avec une grande lectrice comme vous. Et alors pour Alice, elle a un métier qui est assez proche du vôtre d'ailleurs. Et au fond, ce qui m'a attirée chez ce personnage, c'est aussi le journalisme en soi. Et je pense que c'est l'autre personnage un petit peu de ce roman. C'est cette question de qui raconte notamment des événements importants comme... En l'occurrence, là, les révolutions, mais aussi les guerres, puisqu'il y a aussi un contexte de guerre dans ce roman. Et comment ce regard-là peut être parfois biaisé, parfois trop proche de son sujet, parfois trop éloigné de son sujet. Et c'est vraiment le thème d'abord du journalisme qui m'a passionnée. Et alors Alice, c'est assez drôle parce que c'est un personnage qui est assez éloigné de moi. Il y a vraiment beaucoup de fiction, ou en tout cas, Alice, enfin je veux dire, il y a autant de moi chez Alice que chez Ilias et Wassila. Parce que je pense que c'est des personnalités qui font des choses que je n'ose pas faire. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de changer de vie du jour au lendemain ? Moi, ça m'arrive, mais je ne vais pas forcément au bout de cette quête-là. Et mes personnages, ils osent le faire, ils sont attirés vers quelque chose, une révolution. Là, en l'occurrence, pour Alice, c'est la révolution de 2011 qui va l'emporter. Une ville, parfois, qui les fascine, comme c'est le cas pour le personnage d'Ilias par rapport à Paname. Et un amour, sans trop en dire, c'est aussi une des quêtes d'un autre personnage dans le roman. Et au fond, ce qui m'intéressait chez Alice aussi, c'est d'aller par-delà ce mythe aussi du grand reporter qui est assez présent, en fait, dans la fiction et de plus en plus. Depuis les guerres de Gaza et d'Ukraine, c'est des personnages qu'on voit mis au devant de la scène, mais qui sont aussi situés, qui ont aussi leur biais. Je voulais les humaniser, montrer leurs contradictions et montrer aussi ce que ça veut dire d'être une femme journaliste. Donc, surtout qu'Alice, on voit bien que c'est un personnage qui a une féminité assez contrariée, qui aurait aimé être un homme, au fond, pour aller là où elle veut, quand elle veut. Il y a quelque chose d'à la fois touchant et malsain chez elle. Et voilà, moi, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment construit aussi comme une forme de personnage d'anti-héroïne, femme complexe, que je trouve n'est pas assez présent aussi en littérature. Et moi, ça m'intéresse d'aller vraiment fonder les doutes, les contradictions de personnages comme ça qui sont mythifiés.
Alors, elle est aussi un peu torturée, Alice, on en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est vrai que dans tous vos personnages, et sans dévoiler toutes les intrigues qui tissent votre récit, c'est vrai qu'ils sont tous en quête d'un ailleurs, en quête d'autre chose. Mais je voudrais revenir sur la part de vous, parce que vous dites Alice est journaliste, mais vous aussi, vous avez été appelée à partir sur les routes, je crois que c'était en 2015-2016, vous avez appelé ça Rihla, le voyage, et un voyage initiatique où vous êtes parti, je crois, du Maroc à la Jordanie, et vous avez documenté tout ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'il y a une part de Hajar dans Alice, parce que vous vous êtes livré aussi à cet exercice à la fois du voyage et de mettre en récit ce que vous pouviez observer lors de ce voyage.
Oui, complètement. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai osé écrire ce roman. C'est-à-dire que tous les pays qui sont présents dans le roman, à part la Syrie, c'est des pays où je me suis rendue. Mais avec, effectivement, ce projet de Rehla, qui était un projet de journalisme culturel, qui finalement aussi, on se posait pas les mêmes questions je suis au milieu d'une émeute. C'est une des scènes du roman. Je n'ai pas de quoi me protéger des gaz lacrymogènes. Je reste, je ne reste pas. Jusqu'à combien de temps ça me suffit pour avoir de quoi écrire mon papier? À quel moment aussi la question de la culpabilité des gens qui sont morts dans une des émeutes de la révolution égyptienne me hante, parce que j'ai vu la douleur des autres, et ça c'est un essai qui m'a beaucoup marqué de Suzanne Sontag. Qu'est-ce qu'on fait de la douleur des autres une fois qu'on l'a vue? Et est-ce qu'elle ne se blottit pas quelque part en nous? Et moi, c'est ces questions-là qui m'ont intéressée. Effectivement, je pense que je me suis sentie légitime pour l'aborder par la fiction, parce que moi-même, je m'étais posé des questions similaires, mais quand même moins brûlantes, en allant effectivement pendant 6 mois sur la route jusqu'en Jordanie. Et j'interrogeais mon propre regard à ce moment-là en me disant, oui, je parle la langue, j'ai grandi au Maroc, donc je n'ai pas le même regard qu'Alice, qui, elle, a grandi en France, qui a peut-être aussi une forme de liberté dont elle n'a pas conscience avec son passeport, par exemple. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai vécu les frontières dans ma chair, puisque, par exemple, je n'ai pas eu mon visa pour le Qatar. On a traversé la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, et on a été arrêté une demi-journée à questionner sans fin. En Jordanie aussi, on a été questionnés sans fin. Donc, et Alice, elle a des libertés que j'ai pas eues. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. La fiction, ça nous permet de faire des choses qu'on n'a pas pu faire aussi dans la vraie vie. Mais c'est sûr que oui, que cette expérience de journalisme itinérant, elle irrigue en quelque sorte ce roman.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé sur les routes? Qu'est-ce que vous cherchiez à transmettre ou peut-être à résoudre à travers ces expériences, donc de traverser tous ces pays? Vous l'avez dit qu'on retrouve dans le roman, le Caire, Beyrouth, la Jordanie, etc. Parce que chez Alice, il y a un sentiment de colère quelque part, de colère contre la façon dont on raconte les choses, de vouloir être témoin au plus près, d'être le plus fidèle à ce qui se passe. Vous, c'est quoi qui vous a poussé à partir? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une sorte de quête de vérité, une quête, la volonté d'être au plus proche en fait des événements qui sont en train de se passer?
Complètement. C'était la différence aussi, qui est importante pour moi, en fait, c'est que Alice, elle a 30 ans, donc elle est, entre guillemets, elle a du métier. Moi, j'étais partie à 22 ans, 23 ans, et je sais qu'il y avait beaucoup de choses mélangées. Je me souviens vraiment de deux choses majeures. D'une part, effectivement, 2011, puisque c'était un moment qu'on a suivi sur le plan culturel en documentant l'actualité culturelle, les rappeurs qui avaient pris la parole dans les différentes places, Tahrir en Tunisie, etc., les street artistes, etc. Donc, on a vraiment documenté le projet, ces révolutions-là et sur le plan culturel. Et de l'autre côté, il y avait aussi la réduction de nos pays à des archétypes dans les médias occidentaux. Et je me souviens, c'est vraiment pour le coup ça, je me souviens très très bien, notamment donc évidemment des attentats et de toutes les simplifications qui ont suivi, mais aussi de la réaction de Michel Alliot-Marie en 2011, qui voulait envoyer la police française pour mater la révolte tunisienne, donc elle a proposé son soutien. Et je me souviens vraiment de la colère et du sentiment de comprendre quelque chose que les gens autour de moi ne comprenaient pas. Et la troisième chose, c'est l'identification, c'est de voir des gens qui nous ressemblent. Il y a quelque chose de très fort, quelque chose vraiment qui se joue dans la chair. Et c'est le cas aussi du personnage d'Alice, c'est qu'elle voit ça à la télé et elle veut y être. Je pense qu'il y avait, des dimensions qui sont assez proches de l'appel du départ de mon personnage aussi. Ouais.
Mais c'est là où se rencontrent votre expérience personnelle et vos réflexions personnelles et celles de votre personnage. Ce que vous dites sur le journalisme occidental, il y a des passages qui sont vraiment sans aucune concession sur les journalistes occidentaux. Mmh. Page 54, par exemple, voilà ce que Alice dit. On l'invite plus d'une fois en Europe à d'importants forums où l'on s'habille bien et où on échange de grandes considérations. Les journalistes occidentaux ne l'intéressent pas. Leur monde est fini. Quadrillés, ils se battent pour des miettes, pour des concepts, des phrases chocs qu'un président ou un ministre sort de temps en temps pour occuper les foules, faire rugir les uns et les autres. Cela accapare les discussions suffisamment longtemps, puis on attend la phrase suivante et chacun prend la parole depuis la petite fenêtre de son petit point de vue. Bassem, c'est le journaliste en Égypte que rencontre Alice, Bassem s'est toujours dit que chez lui, ce n'est pas pareil. On arrache la liberté lambeau par lambeau. Chez lui, on n'a jamais fini de se battre, de flancher, de recommencer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il y a de la colère chez Alice dans son observation de la façon dont les journalistes font leur travail et parlent de ces révolutions arabes.
Ah mais complètement, complètement. Et c'est vrai que le statut d'Alice aussi, le fait qu'elle soit journaliste indépendante, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup parce que c'est ce qui lui permet d'à la fois vouloir proposer des articles à des médias traditionnels et donc être parfois face aux contradictions que ça suscite. Donc, par exemple, on va lui... Ça, moi, j'ai découvert ça en documentant, mais les titres sont rarement choisis par les journalistes eux-mêmes. Et donc, ils se retrouvent avec des titres qui ne reflètent pas du tout l'esprit de l'article. Et ça, je trouve que c'est assez fou quand même. Donc, il y a vraiment cette colère. Et en même temps, donc elle propose ses articles à différents médias, mais en même temps, elle refuse d'être à la solde d'un média parce qu'elle sait très bien que ça peut... la faire rentrer dans à la fois un confort éditorial et en plus que peut-être il y a certaines positions qu'elle n'assumera pas forcément que ce média tient. Et cette précarité qui va avec, cette critique des systèmes médiatiques, bah je trouvais que les journalistes indépendants la carnaient bien et qu'elle se croisait avec celle des journalistes locaux qui, eux, ont d'autres problèmes qui sont plutôt liés aux lignes rouges, qui sont plutôt liés à des questions de avec qui collaborer, jusqu'où aller, et aussi, et c'est là qu'il y a Alice est aussi contradictoire, c'est que bah, les journalistes occidentaux ont besoin de fixeurs. C'est un terme moi, que j'ai découvert et j'ai trouvé qu'il y avait j'ai trouvé ça assez étonnant de découvrir aussi tout ce que ça pouvait être en fait le travail d'un fixeur et que parfois ils font quasiment du travail de journaliste. Et donc c'est ces relations-là un petit peu qui m'ont intéressée et la question de la fabrique de l'information en général, je trouve ça assez passionnant et c'est vrai que j'ai commencé ce roman en 2019 et de l'écho qu'a l'actualité aujourd'hui. En lien avec ce roman, le fait qu'à Raza, les journalistes ne puissent pas entrer, ça veut tellement tout dire des guerres d'information qui se jouent et qui se sont jouées aussi en 2011. Et donc, moi, c'était aussi un moyen pour moi, comme j'avais 18 ans en 2011, d'y revenir par la fiction. Donc, j'ai beaucoup aimé reprendre du recul sur cette période qui m'avait marquée. Je sentais bien qu'elle m'avait marquée, mais je ne savais pas de quelle façon encore.
Alors juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne seraient pas familières avec le mot fixeur, ce sont des personnes qui, sur place, dans les pays en question, aident les journalistes qui viennent à trouver les bons interlocuteurs. En fait, ils leur ouvrent un peu le réseau des contacts, les moyens techniques aussi parfois sur place, pour faire correctement leur travail. Je reviens juste aux similitudes entre vous et Alice Hajar, parce que vous vous intéressez beaucoup à cette question de comment est-ce qu'on raconte, et d'ailleurs c'est intéressant que vous vous intéressiez à la façon dont on raconte d'un point de vue journalistique et la façon dont on raconte d'un point de vue fictionnel. On reviendra à cette question tout à l'heure par rapport à la façon d'écrire. Mais vous n'étiez pas journaliste au départ. Quand vous êtes partie sur les routes, vous avez documenté, vous avez fait un documentaire, vous avez écrit, vous avez lancé un site en 2011, enorient.com. Donc vous écrivez aussi alors que vous n'étiez pas du tout destiné à ça. Vous avez eu un bac scientifique à Descartes, à Rabat. Vous avez fait une classe préparatoire, vous avez fait HEC et vous étiez bien éloigné de ces sujets-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question ?
Je pense que j'ai étudié aussi de la philosophie en parallèle et je pense que c'est une des matières qui m'a sauvée parce que j'ai cultivé quand même un rapport aux lettres, à la lecture, à l'écriture toujours en parallèle de ces études-là. Et je crois que vraiment l'expérience d'Honorient qu'on a créée en 2013, donc un peu après 2011, ça a été un terrain de jeu immense pour moi. Et je pense que je me suis autorisée l'écriture aussi fictionnelle à travers l'écriture collective. Et donc, c'est pas si éloigné de ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est que c'est des questions politiques plus grandes que nous qui, je trouve, nous poussent à écrire, parce qu'on a l'impression d'œuvrer à quelque chose de plus grand que soi. Et c'est par le détour du journalisme culturel puis de l'écriture collective que j'en suis arrivée à l'écriture romanesque. Et je crois que ça a toujours été là. Après, le choix des études, on le sait, au Maroc, parfois ça se fait pour faire plaisir aux parents, etc. Donc je pense que c'était aussi... J'ai pris mon temps, mais je savais que j'allais y aller à un moment de ma vie.
Alors, tous les thèmes que l'on retrouve dans ce deuxième roman, Hajar, qui sont la quête de l'exil pour Ilyes, qui quitte l'Algérie parce qu'il rêve de Paris, sa maman qui rêve aussi de quitter la vie qu'elle mène, Alice qui rêve de quitter Paris pour être au plus proche des réalités. Est-ce que cette quête de l'ailleurs, ce besoin aussi un peu de révolte contre un environnement qu'on n'accepte plus et donc on va aller ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il est typique de cette génération ?
De ma génération, pas de la génération...
De vos personnages, 2011, de la génération... Ouais. Oui, de cette génération de 2011 et puis de vos personnages. Qui sont tous habités quelque part par ce désir.
Je ne sais pas si c'est générationnel, parce que pour le coup, mes personnages, ils ont des âges différents. Mais je crois que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse vraiment. Non pas forcément l'ailleurs au sens européen. D'ailleurs, je voulais vraiment qu'un personnage arrive en Europe, mais par défaut, quasiment. Je ne vais pas en dévoiler trop, parce que sinon, ça dévoile un peu l'histoire. Et que Alice, elle ait ce mouvement, ce sens de la fuite qui va plutôt vers le sud. Et oui, je ne sais pas si c'est quelque chose de... C'est un phénomène vraiment généralisé. Mais en tout cas, je l'observe, je l'observe autour de moi, je l'observe aussi beaucoup chez des femmes, ce besoin d'errance par moment et de se trouver à travers nos errances. Et c'est quelque chose que je trouve qu'il faut célébrer parce que parfois on a besoin de faire des détours, de prendre des chemins de traverse pour se trouver soi. Et ça peut être sur le plan professionnel, comme je le disais, moi, mon propre parcours, il est construit comme ça. Ça peut être sur des plans plus intimes, géographiques. Et je pense aussi que l'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est la question du mirage aussi de l'ailleurs. On sait bien que l'ailleurs, c'est un horizon régulateur, mais en soi, on l'atteint jamais complètement. Et donc, j'aime bien aussi... C'est vrai que le point commun entre mes deux romans, c'est cette quête des origines, mais j'ai un... c'est pas une quête explicative. C'est-à-dire que Alice, elle a besoin de finir par aller en Algérie parce qu'elle a dessiné l'Algérie sans y aller, parce qu'elle a fait tous les pays autour. Je trouve ça drôle et ça, beaucoup de gens se reconnaissent dans les lecteurs du fait de parfois aller vraiment faire tout le tour de quelque chose qu'on veut faire au lieu de le faire, mais du coup, on finit par le dessiner de façon picturale. Et je trouve ça assez beau et je trouve que parfois, c'est comme ça qu'on arrive aux choses qu'on a envie de faire dans sa vie. Et voilà, c'était aussi un hommage aux fuites comme création, comme capacité à... Ouais, enfin, voilà, la fuite qui peut nous ramener vers soi. Et pas la fuite que comme un renoncement. Et la deuxième chose aussi, c'est je voulais vraiment mettre la fuite et l'exil sur le même plan. Parce que la fuite d'Alice est une fuite qui est plutôt facilement mythifiée et romanesque. Et l'exil d'Iliès, il est mis dans une autre catégorie. Un peu, inférieur, on va dire. Et moi, mes personnages, au final, même Ilias va sauver Alice, c'est un moment très difficile. Et je voulais que cet héroïsme, là, soit chez des personnages auxquels on ne s'attend pas, en fait. L'héroïsme dans mon roman, il n'est pas là où on l'attend. Il n'est pas forcément chez Alice, qui effectivement est très torturée. Il va être plus chez Ilias, plus chez Bassem. Et voilà, c'était aussi reposer la question de qu'est-ce qui est célébré et qu'est-ce qui ne l'est pas dans les parcours et les trajectoires individuelles.
Alors, vous avez déjà évoqué quelques thématiques qui nous amènent au deuxième point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est toutes les questions liées à l'écriture et à l'identité. Le sens de la fuite, c'est votre deuxième roman. Le premier, L'envers de l'été, se passe dans un endroit qui n'est pas vraiment nommé. On sait juste que ça se passe autour de la Méditerranée et c'est une saga familiale. Mais avant ce premier roman, vous en aviez écrit un autre qui n'a jamais été publié, qui s'intitulait Entre deux. Que représente ce terme pour vous, Entre deux ?
Alors, c'est bien, vous avez vraiment cherché. Il s'appelait pas Entre deux, mais oui, il a existé, c'est vrai, ce texte. Et qu'est-ce qui représente pour moi l'entre deux ? Ben, je pense que vraiment, il y a quelque chose. Mon écriture tourne autour de la question du territoire. Je pense que c'est quelque chose qui me fascine de comment les territoires qu'on connaît, dans lesquels on va, nous renferment en fait chacun des parts de nous et aussi des parts de vérité. Comment des regards croisés peuvent dire quelque chose d'un territoire plus fort qu'une vision unique. Et la question du territoire me fascine. Là, pour mon prochain projet, par exemple, il n'y aura pas d'entre-deux géographique. Mais je pense que ça va beaucoup se passer à Tanger. Mais il y aura à nouveau peut-être la question du réel, du magique, du réel et de l'imaginaire. Et je pense que je sais pas, j'aime bien cette idée de prendre deux notions et de les rendre comment dire, de les rassembler dans un texte. Et je crois que ça vient aussi de mon propre parcours, du fait que mon écriture est extrêmement liée à mes déplacements. Des déplacements, bien sûr, parce que je suis partie étudier en France, mais aussi parce que ensuite j'ai continué à voyager et j'aime l'émerveillement d'arriver dans une nouvelle culture, dans un nouveau mode de vie, un nouveau fonctionnement, un nouveau système de valeurs. Et je crois que c'est ça que j'aime restituer dans mes romans, c'est que j'aime prendre des choses qui viennent de mondes différents, de territoires différents, et les rassembler. Et voilà. Et je trouve qu'aussi c'est très ludique de faire ça. Donc, y a aussi du jeu là-dedans. Il y a de la mélancolie, mais il y a aussi du jeu.
Alors, un peu comme Alice, vous êtes un peu contradictoire parce qu'il y a cette volonté de fuite, donc de ne pas, par exemple, une des questions que qui m'intrigue, moi, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas nommer le lieu où se passe votre premier roman ? Est-ce que, parce que pour vous, le contexte culturel n'est pas si important et que l'essentiel, c'est que l'histoire soit universelle ? Donc, il y a cette volonté, quelque part, de garder le flou sur le lieu et en même temps, il y a un désir d'ancrage parce que les histoires que vous racontez sont liées à des cultures, à des événements précis, à... Donc comment vous naviguez en fait entre les deux, et surtout, encore une fois, parce que je veux vraiment savoir pourquoi vous n'avez pas nommé où se passe votre premier roman.
Je sais pas si c'est de la contradiction, parce que chaque histoire en fait est autonome à son propre, c'est une sorte de bocal quoi, donc c'est vrai que la première est pas située, la seconde est extrêmement située, mais sur différents territoires, donc il y a une forme de fuite dans les deux, mais qui prend des formes différentes. Après, pourquoi ne pas situer, c'était vraiment un choix esthétique assez fort de ma part, c'est que je voulais que justement, que le lecteur se pose la question, et les lecteurs ont joué, certains ils ont googlé Teffle. Certains, ils le prononcent.
Oui, je l'ai fait, j'avoue.
Voilà, c'est ça. Mais moi, ce jeu, le fait de dérouter un peu, de déranger peut-être aussi le lecteur, c'est quelque chose qui m'amuse. Vraiment, je trouve ça intéressant que tout ne soit pas donné et qu'il y ait peut-être des choses à chercher ou qui échappent pour le lecteur. Et alors, l'autre aspect, c'était aussi vraiment, je voulais que ce roman il soit ancré dans la Méditerranée, parce que je trouve que c'est un espace qui est à la fois extrêmement... palpable. Quand on dit Méditerranée, on a tous des images. Et en même temps, ça recoupe tellement de pays, de cultures. Et donc, que le questionnement sur le lieu soit à nouveau posé, comme pour le second, d'où écrit-on, mais sous une forme plutôt à renvoyer le lecteur vers ce qui n'est pas dans le livre. Donc, il y a notamment la référence de Camus, donc, qui va à un moment dire « Tu nous fantasmes sans t'intéresser à ce qu'on est vraiment ». Donc, en fait, il y a des formes d'indices. Mais c'est au lecteur de faire son propre avis sur le lieu, et les gens le situent, même des Marocains l'ont situé en Grèce, ce que j'ai trouvé très drôle, des Marocains l'ont situé au Maroc, des Français l'ont situé en Bretagne.
Effectivement, j'ai pensé à la Grèce, parce que la matriarche c'est Gaïa, donc évidemment, parce que même dans les noms des personnages, on ne peut pas savoir exactement d'où ils viennent. Donc c'est un véritable jeu de piste ou une véritable énigme.
Oui, c'est ça. Et après, c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse dérouter des lecteurs. Il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont eu du mal à croire à l'histoire parce qu'il y avait trop de noms différents et qu'ils n'arrivaient pas à l'imaginer. Donc, c'est vrai que c'est un risque à prendre. Mais moi, je trouve ça drôle, en tout cas, peut-être de sortir d'un archétype aussi que j'ai beaucoup lu, de romans sociaux marocains. Je sais pas, j'ai pas envie d'en ajouter un de plus. C'est ça, peut-être. Et du coup, j'essaie d'expérimenter. Et peut-être que ça fonctionne plus ou moins, mais j'aime bien l'idée d'essayer, de tenter des choses.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, vous n'avez pas voulu en rajouter un. Vous faites partie des écrivains marocains francophones installés entre la France et le Maroc, et souvent ce qu'on attend de ces écrivains, c'est justement qu'ils traitent de ces thématiques de l'entre-deux, de la double culture, de l'appartenance à deux pays, et parfois même pour les femmes, de sujets encore plus spécifiques comme le corps des femmes, les droits des femmes, leur rapport à la religion. Est-ce que vous ressentez ces assignations? Quel regard vous portez en fait sur ces attentes qu'on peut avoir à l'égard de ces écrivains marocains de l'immigration ? Est-ce que vous les ressentez ?
Ah mais complètement, oui, elles sont... Mais je pense que moi, c'est ces injonctions-là qui ont fait que j'ai mis du temps à m'autoriser à écrire, qu'il y a ce premier roman que je n'ai pas envoyé. Je pense que je voulais m'armer en fait un peu avant de commencer à partager des choses et je trouve que ces assignations elles sont très fortes et c'est pas facile de naviguer même une fois qu'on écrit et qu'on publie pour atteindre une cible, c'est pas si facile d'être un peu décalé dans ce qu'on propose Et en même temps, il faut tenir une ligne, je pense, dans le temps. Et il y a des auteurs, des autrices qui sont inspirantes à cet effet. Bien sûr, Bougarsar, il nous montre que c'est possible de livre en livre, de continuer à tenir une ligne exigeante, de Yasmine Chami. Donc, il y a aussi des auteurs qui nous inspirent à ne pas répondre à ces attentes. Mais c'est sûr qu'elles sont là. Et même, moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur avec qui je me sens vraiment comprise. C'est pas le cas de tous les auteurs, même proches de moi. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et puis, en même temps, c'est exactement ça qui m'intéresse. C'est comment, en fait, créer des formes qui renouvellent aussi ces... qui renouvellent un petit peu ce qui est écrit par rapport au sujet habituel, et aussi qui déjouent ses attentes. Et ça passe parfois les faire exister dans un roman. D'où la intertextualité avec Camus. C'est une façon de dire, je sais que vous attendez ça de moi, mais moi je vais le décaler un peu et je vais y répondre, mais à ma façon et je vais pas en faire le cœur de mon histoire. Ça va exister, mais de façon décalée.
C'est un vrai travail d'équilibriste finalement, parce que en même temps ces questions, elles vous habitent nécessairement dans le sens où votre parcours fait que les questions d'identité, d'appartenance, de langue, de territoire, comme vous le disiez tout à l'heure, sont inévitables. En raison du parcours de vie, et en même temps tenir l'équilibre en n'écrivant peut-être pas que là-dessus, ou en n'écrivant pas là-dessus que de la façon dont on voudrait que vous écriviez là-dessus. C'est difficile de tenir cet équilibre.
Oui, c'est exactement ça, c'est très bien résumé. Oui, c'est un exercice d'équilibriste, et en même temps, c'est ça qui est... Ça rend l'exercice peut-être plus contraignant, mais plus intéressant aussi. Et moi, je crois aussi beaucoup au collectif. On correspond beaucoup avec d'autres auteurs comme Assia Djoulaït, qui est française d'origine algérienne. On se lit, on se critique. Et je trouve que c'est le collectif, c'est aussi ce qui nous fait tenir, parce qu'ensemble, on sait qu'on veut, qu'on ne veut pas tergiverser, qu'on ne veut pas se compromettre par rapport à notre intention littéraire. Et c'est ça, je trouve, qui est important et peut-être qui n'est pas forcément assez visible. C'est vraiment la place de l'écriture collective qui fait aboutir et fait advenir les écritures individuelles. Moi, je pense que c'est essentiel en littérature aujourd'hui pour tenir une ligne exigeante.
Alors, Hajel, vous évoquez justement dans un entretien votre rencontre avec l'écrivain Miguel Bonnefoy. Et qu'est-ce que ces écrivains qui viennent d'autres continents, mais qui ont aussi un rapport à la France, à la langue française, vous apportent justement dans cette réflexion sur comment écrire sur l'identité des appartenances sans être enfermé? Et est-ce qu'il y a des points communs avec ce que peuvent vivre des auteurs du monde arabe ou des auteurs maghrébins par rapport à ces questionnements? Est-ce que finalement ce sont des questions qui sont les mêmes pour tous? Et qu'est-ce que vous a apporté des rencontres comme celle avec Miguel Bonnefoy? J'aimerais bien que vous nous racontiez cette rencontre justement.
Non, merci pour cette question qui est très importante et qui fait le point avec ce que je disais précédemment. Oui, ce sont des... Moi, c'est Miguel, il m'a encouragée à écrire à l'époque où j'écrivais des nouvelles et je n'avais pas encore écrit ce premier roman qui a été publié. Et c'était une rencontre magnifique. C'est quelqu'un qui est plein d'humanité, qui est extrêmement humble.
Et vous n'aviez pas encore publié de roman, mais vous veniez de remporter un concours de nouvelles.
C'est ça. Et donc... Miguel, c'est quelqu'un qui prend la chose justement avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'ironie, et j'avais beaucoup aimé ça chez lui parce qu'il est à la fois très conscient de sa position et des attentes que parfois l'édition française peut attendre de lui, et en même temps, il a cette joie, ce côté très théâtral qui est toujours teinté d'une forme d'ironie, et je trouve ça très inspirant parce que justement, ça déplace les choses. Et dans l'écriture de Bougarsar, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, ce recul vis-à-vis de sa position. Qui marque à la fois la conscience de ce qui se passe et en même temps qui en fait autre chose.
C'est un autre continent, donc c'est pas du tout le même rapport aux imaginaires. On rappelle que c'est un écrivain franco-vénézuélien, oui. Donc c'est une autre problématique que celle qui se pose pour les auteurs d'Afrique du Nord ou d'Afrique.
Oui, et pour aller dans ce sens, j'ai justement récemment lu un texte magnifique de Borges qui s'appelle l'écrivain argentin et la tradition. Et précisément, on voit qu'ils se posent les mêmes questions, les Argentins, sur le fait de décrire ou pas un texte argentin. Et il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce texte. D'abord, il dit que les lecteurs argentins n'ont jamais autant reconnu l'Argentine que quand elle n'était pas située, pas nommée. Et qu'en nommant parfois des villages tristes le roi, on lui a dit que ça ressemblait au faubourg de Buenos Aires. Et autre chose qu'il disait, c'est que Qu'est-ce que ça veut dire l'écrivain argentin? Est-ce que c'est une histoire de nationalité? Est-ce que Paul Bowles, qui a écrit sur Tanger, est plus marocain que moi, par exemple, qui n'est jamais écrit pour l'instant sur situé au Maroc? Et ce sont des questions que je trouve intéressantes parce que, en fait, je trouve que les Latino-Américains se les sont posés assez tôt. Je crois que nous aussi, on se les a posés au Maroc, mais peut-être que c'est pas transmis. Il y a vraiment une histoire de mémoire. On ne lit pas peut-être assez les écrivains marocains qui nous ont précédés, comme Khalil Dine, comme Iftah. Et quand on les lit, quand on lit Khatebi, en fait, on se rend compte que vraiment on n'invente rien, que ces questions se sont toujours posées et que c'est à nous, en sachant bien comment les écrivains avant nous y ont répondu, de renouveler les formes, mais aussi de ne pas rester dans quelque chose de théorique vis-à-vis de ces questions, de vraiment l'expérimenter par l'écriture, de déplacer les choses. Ces dialogues entre écrivains, aussi hors Afrique, Moyen-Orient, etc., ils sont essentiels parce qu'ils sont essentiels aussi pour voir des choses qui ont fonctionné. Parce que sinon, on peut rester sur le débat théorique de comment on écrit entre deux. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment Borges a réussi ou a raté. Et qu'est-ce que je peux en apprendre? Et voilà, en tout cas, c'est un chemin que j'ai commencé à prendre aussi parce que je travaille sur un écrivain marocain qui a été oublié. Et depuis que je travaille sur cet écrivain, j'en ai découvert une galaxie d'autres. Et ça rend assez humble et ça donne envie de continuer à dialoguer avec d'autres écrivains pour apprendre collectivement. En fait.
Donc il y a une mémoire aussi littéraire au Maroc dont, en tout cas, qui pourrait avoir aussi des choses à nous apprendre sur ces questions-là. C'est ce que vous nous dites.
Exactement, tout à fait.
Alors, quelles ont été les influences majeures marocaines ou d'ailleurs dans votre écriture, dans la construction de votre imaginaire, dans la façon d'appréhender les sujets que vous traitez?
Il y en a beaucoup, mais je vais en choisir peut-être en lien avec ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Mon premier choc littéraire, et je pense aussi qui m'a montré que l'écriture pouvait être dangereuse, qu'elle pouvait déranger, qu'elle pouvait décaler des perceptions, c'est Mohamed Choukri, Le Pain Nu. Et ça, je crois que je ne suis pas seule, mais j'aime beaucoup reparler de ce texte parce que je trouve que voilà, tout y est. C'est vrai, c'est direct. Ça fait entrer dans des endroits auxquels on n'a pas forcément accès. Et moi, ça m'intéresse quand un livre fait ça. Et avec Choukri, il y a tout un ensemble d'auteurs qui, pour moi, dans mon esprit, ont tourné autour de Choukri ou en tout cas ont été associés à la claque qu'a provoqué Choukri, c'est Céline, par exemple. Donc, il y a ces auteurs-là. Après, il y a d'autres auteurs.
Des gens comme Céline, pardon, quand vous évoquez Céline, oui. Vous évoquez aussi, je reviens des entretiens que vous avez donnés sur ces sujets, ou Houellebecq, par exemple, aussi, également. Et vous dites que ce que vous aimez chez eux, c'est leur façon de transgresser les formes littéraires.
Oui, c'est vraiment ça. Houellebecq, j'en ai lu beaucoup. Et après, je pense que les positions politiques de Houellebecq, qui étaient déjà visibles, hein, mais m'ont un peu dégoûté de son écriture. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose chez lui qui est transgressif, qui va direct à l'essentiel et aussi avec une langue. Peut-être moins chez Houellebecq, plus c'est Céline. Et je trouve que c'est quelque chose que j'aime retrouver en littérature. En tout cas, cette langue acérée, directe, qui cherche aussi quelque chose sur le plan esthétique. Mais je pense que ça, c'est aussi des lectures peut-être liées à de la révolte, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je lis aussi des choses différentes et peut-être je me rends compte que j'ai des héritages ailleurs, parce que c'est des auteurs que les auteurs citent beaucoup, Céline, parce qu'il y a quelque chose d'assez jouissif dans le choc que ça provoque. Mais je pense aussi que je dois énormément à la littérature policière. Et je crois que c'est une littérature qui est côté qui est mal vu, et moi je n'aurais jamais autant lu, je pense, si j'avais pas découvert Agatha Christie, Marilyn Clark, Sir Arthur Conan Doyle, et d'ailleurs je me rends compte qu'il y aura encore des enquêtes dans mes romans. Je pense que j'aime bien la générosité aussi du rythme qui va avec, qui permet à tous les lecteurs de rentrer dans une histoire, je réalise peut-être tardivement à quel point ça m'a façonné, ces lectures là et je dirais pour finir allez, deux autres. Je dirais Patrick Chamoiseau, parce que c'est juste magnifique. Pour le coup, c'est assez différent de tout ce que je viens de citer. C'est sucré, c'est plein de douceur, c'est plein d'intelligence, c'est décolonisé aussi. C'est des langues hybrides qui me nourrissent énormément. Et les joueurs, donc les joueurs que sont Borges, tous les latino-américains. C'est vrai que j'ai cité beaucoup d'hommes pour l'instant. que des hommes même. Mais voilà, c'est vrai que ce sont... Voilà, il y aurait plein de femmes. Il y aurait Duras, il y aurait Fatema Mernissi, il y aurait Toni Morrison. Enfin, c'est infini, la question des livres.
C'est une question piège à laquelle il est très difficile de répondre. Mais merci d'avoir partagé ces quelques noms. En parlant de Chamoiseau, vous avez dit c'est doux et c'est un peu charnel, mais c'est aussi décolonisé. Je voulais aussi vous demander quelle place tient cette réflexion théorique sur la décolonisation des arts, sur la façon dont on perçoit justement les questions liées à la double identité, etc., dans votre travail d'écrivain. Parce qu'on a l'impression, en tous les cas, quand j'observe un peu les thématiques qui sont abordées parfois dans des festivals littéraires dans ces régions du monde, ce sont des questions qui reviennent. Donc, est-ce que... En fait, ça veut dire que les écrivains qui viennent de ces régions du monde aujourd'hui ont nécessairement une réflexion, on va dire peut-être politique, qui imprègne leur écriture, ou est-ce qu'on s'en affranchit et on écrit d'abord ce qu'on a envie de raconter ? Parce que beaucoup parlent de ces sujets-là. Vous avez parlé tout à l'heure de Mbougarsa, il y a cette question qui revient tout le temps de comment on écrit aujourd'hui quand on est un écrivain, on va dire, entre guillemets, du Sud, du Grand Sud. Donc, est-ce que ces questions-là, sur la décolonisation, etc., des arts notamment, tiennent une place importante dans la réflexion d'un écrivain comme vous aujourd'hui ?
Moi, je pense que ce sont des questions essentielles. Elles sont... En fait, de fait, quand on écrit en français, la question se pose, sachant que les lecteurs francophones au Maroc, il y en a, mais ce ne sont pas la majorité les Marocains ne sont pas majoritairement francophones. Il y a la question aussi de la classe à laquelle on s'adresse. Il y a la question des territoires de réception qui sont encore aujourd'hui beaucoup en Europe. Donc, je crois que ces questions se posent sur le plan théorique. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment on peut les déplier dans une histoire à travers des points de vue, à travers des dialogues, à travers des échanges plus ou moins animés. Et c'est dans mon roman, ça se traduit par la discussion entre Bassem et Alice. Bassem a clairement ce point de vue sur l'information qui est extrêmement décolonisée. Et c'est lui, son rêve, c'est de n'être ni l'esclave des militaires ni des occidentaux. C'est vraiment fini par ça. Et je trouve ça important, effectivement, de faire exister dans le texte des moyens de l'autocritiquer. D'ailleurs, c'est pour ça, vous l'avez très bien signalé, que j'aime avoir des personnages qui ont un rapport à l'écriture, parce que ça me permet aussi d'interroger ma propre position d'écrivaine dans le texte. Et j'ai aimé, et je sais que ça a dérangé des gens, et je trouve ça intéressant, que Bassem dise à un personnage, va écrire des articles et des romans qui parlent de nous à Paris. Donc, ça provoque aussi une réaction du lecteur qui se dit, ah, ce texte ne m'est pas vraiment complètement adressé. Ou en tout cas, il y a un personnage dans ce texte qui n'attend pas une réaction de moi qui... plutôt la méprise même. Et je trouve ça intéressant quand ça s'incarne, que ça reste pas théorique, parce que sinon, effectivement, quand on regarde l'histoire littéraire marocaine, quand on regarde Ratibi l'a déjà en fait dans Bilang, s'interroge sur ces questions, dans Mémoire tatouée aussi. Donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt de la rendre vivante, cette réflexion, parce que sinon on peut être prisonnier d'une réflexion théorique qui nous paralyse. Et voilà, et après, est-ce qu'on peut complètement s'en affranchir? Je sais pas. Je pense que plutôt on s'en affranchit quand on la fait exister et qu'on l'évacue par le roman, et que c'est là qu'il y a une forme d'humilité. On va pas, on va pas décoloniser en un texte et puis réduire des rapports de force ou inverser des rapports de force plus grands que nous. Moi, j'y crois pas. Un roman, c'est un roman. C'est pas lu par énormément de gens. Je crois qu'il faut être humble aussi par rapport à ce que peut la littérature, et donc ça passe par le texte, par le fait aussi d'écrire. Par exemple, moi, je refuse, je déteste les notes de bas de page, le côté explicatif. Et ça a l'air de rien, mais du coup, dans mon roman, je tenais vraiment à ce qu'il n'y en ait aucune. Il n'y en a aucune. Et il y a des textes qui sont des chansons qui sont d'abord en arabe, puis en français. Et les deux sont en italique. Il n'y a pas de l'italique que pour l'arabe. Ce n'est pas à nous de s'incliner. Il faut que si les langues doivent être mises en avant, elles s'inclinent ensemble. Il y a pas... Et ça a l'air de rien. C'est des questions formelles. Mais moi, c'est vrai que ça m'intéresse de les aborder par la forme, par la structure. Parce que je pense que c'est ça l'essentiel de notre travail en tant que romancier.
Alors ça, c'est un message que j'avais pas vu. Le fait, enfin, je me souviens des extraits de chansons, notamment Warda, etc., dans votre roman. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au sens que ça a représenté de les mettre tous les deux en italique, d'abord en arabe phonétique et puis en français. Mais j'aime votre réflexion et votre explication. Une dernière question, Hajar, parce qu'on arrive bientôt malheureusement au terme de cette conversation. En attendant les prochaines, vous avez parlé de votre prochain projet qui porte sur un écrivain disparu de Tanger. Et la question que j'aime toujours poser aux écrivains, c'est comment se passe leur processus d'écriture ? Est-ce qu'il y a des rituels ? Est-ce que vous avez besoin de voyager ? Au contraire, de vous poser ? Est-ce que vous continuez de lire pendant que vous écrivez ? Ou est-ce que vous ne faites qu'écrire ? Comment ça se passe le processus d'écriture ?
C'est très chaotique. C'est vrai que c'est beaucoup de sédimentation d'abord. Donc j'ai d'abord des carnets de personnages. J'ai des phrases qui d'abord sont des phrases comme ça qui flottent, et ensuite je les attribue à des personnages petit à petit. Et les personnages, je commence à me familiariser avec eux. Ça me prend du temps d'arriver à les comprendre, de savoir ce qu'ils cherchent, d'où ils viennent, etc. Et c'est après que la partie histoire arrive, avec un début, un milieu, une fin. Mais j'aime beaucoup... En fait, je pense que mon écriture est très reliée au personnage, je m'en rends compte. Il y a bien sûr la langue du texte, mais aussi très vite comment elle s'incarne à travers des voix de personnages. Je pense que chaque écrivain a ses processus, parce qu'il y en a qui arrivent plus facilement à la langue ou alors à la structure. Et moi, j'aime vraiment ce dialogue avec les personnages. Donc pour ce projet, j'ai une conversation secrète avec cet écrivain disparu depuis un moment, depuis plusieurs années. Et donc j'accumule en fait pas mal de morceaux, de pensées, de réflexions. Et ensuite, là, j'arrive au moment où il va falloir que j'articule dans une histoire. Mais c'est aussi abandonner ce dialogue très secret avec mon personnage pour
passer à la partie plus... Vous pouvez dévoiler son nom, on ne le saura qu'à la publication.
Non, je peux en parler parce qu'il existe et que je vais faire une fiction, mais que c'est un personnage qui, d'ailleurs, faudrait que les Marocains le découvrent. C'est Abdelkader Chat, qui est le premier écrivain d'expression française au Maroc, qui a écrit un roman à 27 ans, qui s'appelle Mosaïque Ternie, en 1932, mais qui a été effacé de l'histoire littéraire, puisqu'on a retenu Ahmed Sefrioui avec Le Chapelet d'Ambre, qui a écrit 17 ans après lui. Et ensuite, il a arrêté d'écrire en français, Abdelkader Chat, il a écrit en arabe. Donc, il y a aussi cette question des langues. On parlait d'entre-deux, et l'entre-deux sera aussi linguistique. Est-ce qu'on peut effacer une langue de son esprit ? Qu'est-ce que ça fait d'écrire dans une langue plutôt qu'une autre quand on est multilingue, quand on est polyglotte ? Et ce qui est très touchant, c'est que en faisant mes recherches, j'ai rencontré le fils d'Abdelkader Chat, qui a une soixantaine d'années, et avec qui j'ai une correspondance sur l'œuvre de son père, et je trouve ça magnifique, en fait, ce que nous permet... Moi, j'aime beaucoup, je chéris ce moment avant l'écriture, où on rencontre des gens, où on se documente, ça a été beaucoup le cas aussi pour mon second roman. Je trouve que ça fait rencontrer une galaxie de gens qui sont de vrais passionnés de l'ombre, et voilà. Et donc, je suis en plein dans ce moment, mais là, j'en sors, il faut que je termine le texte.
Eh bien, bonne écriture, Hajar Hazel. On a hâte de découvrir le prochain roman. Et je rappelle le titre de celui qui est paru donc en février, le deuxième, Le sens de la fuite. Merci beaucoup, Hajar, d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
À bientôt.
À bientôt.